I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut à tous, le retour de l'émission quotidienne journalière, du coup forcément, consacrée donc au preview draft un jour pour aborder les besoins prioritaires d'une franchise dans l'optique du rendez-vous qui nous attend le 29 avril prochain du côté de Cleveland. Et on va parler aujourd'hui des Los Angeles Rams avec une nouvelle, j'ai presque envie de dire une énième reconstruction, et pour en parler en ma compagnie, Alexandre Locke et des nôtres. Salut Alex.
Salut Greg, bonjour à tous.
Ouais, alors je parle encore une fois de reconstruction. Le terme est peut-être un petit peu exagéré quand on parle d'une équipe de qui a atteint les playoffs et le deuxième tour en l'occurrence, surtout avec un quarterback blessé. Il y a eu un changement de quarterback qu'on peut difficilement occulter avec l'arrivée de Matthew Stafford, justement échangé avec Jared Goff. Maintenant, les Los Angeles Rams, Alex, ça fait partie de ces équipes qui ont dû composer avec un salary cap juste. C'est un euphémisme de dire ça. Et du coup, il va quand même y avoir des besoins prioritaires à considérer durant durant ce repêchage. Lesquels sont-ils, selon toi ?
Alors, effectivement, ils ont quand même eu, malgré ces soucis de salaire, la possibilité de prolonger leur pass rusher Leonard Floyd, qui avait signé que pour une saison, qui a donné satisfaction à McVay et au staff. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour eux. Malgré tout, le poste de edge rusher reste la priorité. Aaron Donald peut pas tout faire, donc bon, Floyd c'est bien, mais il va falloir quand même étoffer tout ça. Le second rideau également, depuis le départ de Littleton, il leur manque quand même, je trouve, cette présence un peu à tout faire sur le poste. Eh bien, il va falloir aussi penser un jour à l'après Whitworth. Donc, je pense que un tackle, ça serait certainement aussi à surveiller, parce qu'il ne doit pas tarder à frôler la quarantaine. Et un petit peu de soutien à Aaron Donald, on l'a dit, mais aussi sur la ligne avec le départ de Brokers. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, voire même indispensable, si on veut que leur meilleur joueur puisse quand même s'exprimer un minimum.
Ouais, très clairement. Alors, c'est sûr que oui, j'en ai pas parlé, mais il y a le départ de Brokers. Alors, moi, je t'avoue, en défense, on aura l'occasion d'y revenir, mais le gros point d'interrogation, c'est de savoir quel va être ton système défensif privilégié. Ils ont fait venir Raheem Morris, ancien coordinateur défensif des Falcons, qui était plutôt habitué à évoluer dans des systèmes 43. Mais c'est vrai que vu la re-signature de Leonard Floyd, ça interroge un petit peu, parce que je vois pas trop Leonard Floyd jouer sur une position classique de defensive end, encore moins sur un profil un peu hybride de linebacker. Donc c'est, si on reste sur un système 34, je te rejoins totalement. Oui, c'est sûr que le poste de lineman défensif va forcément être à considérer, encore plus presque le besoin de nos tackles vraiment pour aider, parce que je suis pas sûr que Ashon Robinson par exemple, qui est resté également, corresponde à ce profil là donc c'est vrai qu'il va y avoir des questions à se poser à ce niveau là de toute façon, de manière globale, les tranchées et le front seven, ça me paraît quand même être les besoins les plus prégnants. Si on s'intéresse aux choix, donc les Rams ont deux choix au troisième tour, donc ça donne quatre possibilités s'il n'y a pas de trade, bien entendu. Et ils commencent dès le 57e choix, donc pas de premier tour. Ouais. Parce qu'on rappelle qu'ils l'ont envoyé aux Jacksonville Jaguars pour récupérer Jalen Ramsey.
Ils n'ont jamais de premier tour, les Rams.
C'est ça.
Et ils n'en auront pas pendant encore un moment.
Voilà, c'est inutile. Mais en tout cas, 57e choix, on était relativement d'accord pour partir sur un edge rusher. d'entrée. Alors sur cette même logique hein, du système défensif dont je parlais, j'avais évoqué éventuellement la possibilité Quincy Roach, qui d'ailleurs en notre side linebacker serait pas forcément déconnant, mais je pense qu'il exploiterait un peu moins ses compétences. Après, tu parlais de Joe Tryon qui est peut-être plus configuré justement pour évoluer sur une 34.
Ouais, Joe Tryon a peut-être un petit peu plus. Il est agile. Il est. Je pense qu'il a l'avantage lui de pouvoir peut-être plus facilement jouer dans les deux systèmes. Il peut aussi apporter pas mal contre la. Enfin, je course. Cherche mes mots. Contre la course, mais. Roche, c'est quand même un profil qui, je pense, peut évoluer sur la position, sur le schéma 34. Il a une très bonne technique, il a un grand panel de mouvements, il est intelligent. Donc, malgré un manque un petit peu de puissance, je pense que ça peut le faire. On a l'impression que les Rams, malgré le coordinateur défensif qui change, malgré les joueurs qui partent, ils ont toujours une défense dominante. Mmh. Ils arrivent toujours à développer les joueurs, à en faire des très bons éléments. Donc, je pense que, j'allais dire, peu importe le choix, ça sera efficace. C'est peut-être un petit peu exagéré, mais que ça soit un Tryon ou un Roche, peu importe le schéma, ça devrait pouvoir le faire.
Oui, non, après, c'est sûr que je te rejoins globalement. C'est sûr qu'avoir des profils un peu hybrides par rapport à ce qu'on disait, ce sera pas forcément une mauvaise chose. Et en effet, Joe Tryon, il y a quand même cette activité-là. C'est un joueur considéré encore un petit peu brut, hein, qui a pas joué en plus en 2020, ce qui l'a pas spécialement aidé avec Washington. Mais de l'échantillon qu'on avait en 2019, il y a quand même des dispositions qui font que, encore plus dans une défense sur laquelle on peut mettre l'accent, c'est vrai qu'il n'y a pas... Il n'y a pas que des stars dans cette équipe-là, même s'il y en a deux majeurs, en l'occurrence. Oui. On va dire qu'il y a deux superstars et puis une ossature autour. Je pense que c'est le style de défense dans laquelle Joe Tryon peut éventuellement se développer s'il descend jusqu'à la fin du deuxième tour. Mais ça, c'est une autre discussion.
Oui.
On n'a pas parlé de la possibilité Patrick Jones également, qui, je pense, aurait ce côté un petit peu hybride aussi.
Alors, peut-être un peu plus loin, Patrick Jones, pour le coup.
Ouais.
Mais effectivement, oui, il est rapide, lui aussi, explosif. Pareil, bonne intelligence de jeu. Un peu moins de technique, mais bon, tout ça, c'est des profils intéressants. Après, voilà, juste, je pense que Tryon, ça va peut-être être un peu juste en fin de second tour. C'est à voir. On a vu certains spécialistes le mettre même au premier tour. Donc, il faudra surveiller.
C'est ça. Ça fait partie de ces joueurs, en effet. Qui ne laisse pas indifférent, on dira. C'est où on apprécie, où on tique un petit peu sur ce qu'on en a vu à l'université. Deuxième tour, on était parti donc sur un inside linebacker, hein, de par ce que tu évoquais tout à l'heure, cette difficulté peut-être à avoir un linebacker assez polyvalent. On était parti sur Chase Surratt, linebacker de North Carolina. Qu'est-ce qui t'incite du coup à aller plutôt vers le joueur des Tar Heels?
Bah, justement, Surratt, pour moi, c'est vraiment ce joueur qui va apporter sa polyvalence et qui va pouvoir être efficace sur les différents aspects du poste, que ça soit donc sur la couverture, que ça soit même sur le blitz. Il est rapide, il est explosif. Alors, des petits défauts, une marge de progression certainement sur sa qualité de plaquage, mais c'est vraiment le linebacker à tout faire dont ils ont besoin, en fait. Voilà, je te disais tout à l'heure par rapport au départ de Littleton, c'est un profil alors sensiblement identique, même si c'est pas du tout le même style de joueur malgré tout, mais c'est ce côté homme à tout faire. Voilà.
Oui, on rappelle que c'est un joueur qui a quand même réussi la performance d'être un ancien quarterback reconverti en excellent linebacker. Ça arrive pas tous les matins non plus. Donc voilà, on a un athlète hors norme qui sait faire pas mal de choses en l'occurrence. Ce serait dommage de pas l'exploiter. Alors, je l'avais pas forcément au troisième tour, encore que à mon avis, il en sera pas si loin que ça. Si on cherche un linebacker un peu polyvalent, un homme vraiment à tout faire, et j'aime beaucoup Justin Hilliard de Ohio State. Et je trouve que c'est un joueur qui ressort pas beaucoup, mais surtout dans une division où t'as quand même Russell Wilson, où t'as une équipe d'Arizona qui a l'air quand même assez armée dans le domaine aérien. Avoir un linebacker capable d'être vraiment dangereux en tant que Sam, on l'a vu même des fois partir sur des positions de cornerback pour défendre, c'est vraiment un profil assez atypique et je ne serais pas étonné qu'il tape dans l'œil de Sean McVay, de Les Snead durant ce processus draft. On en a peut-être à l'attaque pour le troisième tour. Ouais. On avait le même besoin, en l'occurrence le poste de tackle. Hein, tu évoquais tout à l'heure notamment le besoin d'enfin trouver un joueur d'avenir pour Andrew Whitworth qui n'a peut-être pas forcément été encore identifié au sein de l'effectif californien. De préférence, toi, tu es parti sur Walker Little de Stanford, dont on avait déjà parlé précédemment. Alors moi, je le voyais plutôt descendre. Après, en troisième tour, et du coup, tu lui vois un potentiel pour jouer à gauche à terme ?
Oui, il a le gabarit. Après, est-ce qu'il ferait l'option de basculer Avenstein de l'autre côté et mettre Little à droite ? Je sais pas. Moi, Little, ça me choque pas du tout à gauche. Je pense que, en plus, dans la mesure où Whitworth est toujours là, on va pas lui demander d'être titulaire tout de suite. Donc, il peut apprendre. Enfin, apprendre. Se perfectionner, on va dire, et travailler avec le doyen du poste est très expérimenté. Donc, fin de troisième tour, ça devrait être à peu près par là. On en avait parlé dans notre émission qui sera disponible par rapport à son historique de blessure. Et moi, je continue de penser que en talent pur, c'est vraiment un très bon joueur et ça peut vraiment être une opportunité à saisir.
Ouais, très clairement. Moi, il y a un joueur qui m'intriguait beaucoup sur ce troisième tour. C'était DeAndre Smith. Tackle d'East Carolina qui a tapé dans l'œil de beaucoup d'observateurs, notamment lors du Senior Bowl. Et j'avoue que c'est un joueur que je vois vraiment comme une potentielle surprise pour être un tackle gauche vraiment émérite. Presque un profil à la Terron Armstead, un joueur qui est capable de vraiment sortir du chapeau alors qu'on l'attendait pas forcément à pareille fête. Donc, DeAndre Smith, profil très très clairement à surveiller le joueur d'East Carolina. Voilà, si vous voulez avoir des aperçus, il y a beaucoup d'highlights qui traînent, notamment sur le Senior Bowl. Joueur qui en plus en mouvement est quand même pas est quand même loin d'être mauvais. Donc je pense que sur une ligne un peu habile sur de la zone, ça peut être un joueur extrêmement précieux pour décrocher. Il peut être assez agressif là-dessus. Donc très franchement, joueur assez complet. Là encore, sur ta même logique, hein, si tu le mets un an derrière Whitworth, ça peut en effet être un joueur. Assez rapidement intégrable dans le 5 majeur, si je peux l'appeler comme ça, dès 2022. On termine avec le dernier choix, donc l'autre choix compensatoire du troisième tour, parce que du coup, j'ai dit une bêtise, hein, il n'y a pas deux choix du troisième tour, il y en a même trois, parce qu'il y a deux choix compensatoires au sein de ce troisième tour. Et on est parti du coup sur un defensive lineman, le fameux obstacle dont je parlais. Alors, tu avais ciblé Tyler Shelvin, notamment oui. d'LSU, qui correspond à ce profil-là. Aline McNeil de NC State, ce serait dans la même logique ?
Non, Aline McNeil, c'est un petit peu un profil différent, peut-être justement un poil plus comme dans le rôle que tenait Brokers dans l'alignement des Rams. Mais donc, c'est deux logiques différentes. À voir ce qu'il privilégie. Mais Shelvin, effectivement, en nose, il est super contre la course. Il a un énorme physique. C'est vraiment le nose tackle par excellence. À côté de Donald, je trouve que c'est pas mal quand même. Il est pas très bon sur le pass rush, hein, clairement. Mais bon, t'as Donald à côté. Donc justement, tu as les deux aspects complémentaires qu'il te faut sur ta ligne. Donc ma priorité, ça serait plus ça. Après, si tu veux aller chercher davantage un remplaçant à Brokers, McNeil, c'est un petit peu plus ce côté. Plus défensive tackle, voire défensive N34 comme peut l'être Brokers.
Ouais, alors moi je t'avoue, sur la ligne défensive, j'étais parti sur un choix un peu particulier, alors, parce qu'il y a un joueur que je n'ai pas cité, alors, en l'occurrence, que j'aimais beaucoup à sa sortie d'université, mais il vient d'avoir un petit peu de temps et je ne sais pas à quel point l'organisation des Rams compte sur lui, mais Greg Gaines notamment, qui est toujours là, faudra voir éventuellement ce que les Rams veulent en faire. Il me semble qu'ils ont toujours Joseph Day également sur l'intérieur au poste de nose tackle. Donc ça va être des questions qui vont être à se poser. S'il privilégie un de ces deux hommes pour assurer à temps plein le rôle de nose, j'étais parti plus pour de la rotation sur un poste en effet defensive end 34, un joueur à mettre en concurrence notamment avec Keshawn Robinson. Osa Odighizuwa, joueur de UCLA qui avait vraiment crevé l'écran lors du Senior Bowl, et un joueur qui peut être extrêmement dangereux sur le pass rush. Vous me direz, ils en ont déjà un, hein, mais avoir deux super defensive end sur un front 3 capable d'aller chercher le quarterback dans n'importe quelle circonstance, hein. Je parlais quand même des adversaires qui vont affronter au moins deux fois dans l'année. Je pense que ce sera pas une mauvaise solution, surtout avec en plus Leonard Floyd qui revient. Donc c'est dans cette logique là mais je te rejoins très clairement, s'ils partent sur un obstacle, je serais tout sauf étonné en l'occurrence. On passe à la bonne affaire à présent pour les Rams. Et je crois que tu étais reparti au niveau de l'attaque. Alors, on rappelle que pendant l'intersaison, je ne l'ai pas dit, ils ont signé DeSean Jackson, qui avait connu notamment Sean McVay du côté de Washington. Donc, c'est une solution en plus de la rotation. Ça n'empêcherait pas une possible bonne affaire. Un joueur qui a été un petit peu blacklisté, mais qui reste extrêmement talentueux.
Oui, très talentueux, Coxie, donc effectivement, de Memphis. En fait, depuis l'arrivée de Stafford, j'ai essayé de comprendre un petit peu dans quel système, comment allaient évoluer les Rams. Et Stafford, il avait l'habitude d'avoir Golladay comme cible préférentielle, qui est un grand receveur, très bon sur les réceptions contestées. Et là, aujourd'hui, il a des super receveurs avec Cooper Kupp et Robert Woods, et donc DeSean Jackson. Mais c'est finalement un petit peu des profils à chaque fois similaires. Souvent, ils jouent très souvent dans le slot. C'est une des équipes qui fait le plus de yards dans le slot, les Rams. Et il manque cette présence. Il y avait Reynolds, qui était dans ce profil-là, 1m92, 93, qui est parti à la Free Agency. Donc pour moi, Coxie, c'est vraiment le joueur qui peut être cette cible-là pour Stafford dans l'attaque des Rams. Voilà, avec cette capacité à aller disputer les ballons et il a de bonnes mains. Alors il était blacklisté comme tu dis, mais pour moi ça reste un joueur quand même de talent et surtout en fin de draft vraiment d'apporter un profil complémentaire. Donc il coche les cases.
Très clairement. Moi je te rejoins globalement. J'étais encore resté sur la défense. Surtout de par le départ de John Johnson, il y a un profil que j'aime beaucoup et du côté des Rams, c'est un choix qui m'intriguerait un petit peu, hein, même s'ils ont Jordan Fuller notamment qui s'est bien développé. Ils ont toujours Taylor Rapp ou Terrell Burgess en jeune joueur assez prometteur. Et j'aime quand même bien le profil d'un Jacoby Stevens qui peut faire pas mal de choses, le safety de LSU, joueur qui peut contribuer au sol comme sur la couverture, même si c'est pas forcément son domaine de prédilection sur ce deuxième point, je trouve. Et un joueur qui peut surtout apporter sur l'équipe spéciale dans un premier temps. Donc, je pense que ce serait pas forcément un mauvais calcul d'avoir son apport au sein du secondary et également au niveau des équipes spéciales. En tout cas, merci Alex d'avoir été en ma compagnie. On a fait le tour sur cette merci équipe toi, des Rams. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous consacré au preview draft dès demain pour parler des Pittsburgh Steelers. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser votre avis sur les priorités de votre franchise. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.